Bonjour à tous. On m'avait, il y a quelque temps, on m'a demandé de faire, si je voulais bien faire un petit enseignement pendant le temps du jubilé. J'ai dit oui, pourquoi pas, mais je ne savais pas trop sur quoi est-ce que je pouvais partager avec vous. Puisque le thème du jubilé porte sur notre espérance, j'ai dit ben, ça tombe bien, pourquoi ne pas échanger avec eux sur le thème de cette espérance, qui est principalement le thème du jubilé. Et j'ai voulu, pour formuler mon thème, dire ceci: jeune catholique, témoin d'espérance. Mais tout au long de ce partage, ce serait bien qu'il y ait trois questions que nous nous posons chacun de manière personnelle, notamment: qu'est-ce que nous espérons? Ensuite, en qui espérons-nous et pourquoi? Vous savez, nous vivons dans un monde qui est particulièrement marqué par beaucoup de difficultés aujourd'hui. Un monde profondément blessé, blessé au niveau de plusieurs ordres, notamment des blessures d'ordre sociétal avec la crise des valeurs, ensuite d'ordre géopolitique, aussi avec les différentes guerres qui ont traversé le monde depuis plusieurs années, et maintenant de manière particulière, comme le disait le pape François, nous sommes d'une certaine manière dans une troisième guerre mondiale en morceaux. Mais aussi d'ordre religieux, avec la sécularisation de la société, l'athéisme et la crise des abus que nous avons connus, qui laisse une blessure profonde en chacun de nous. Mais aussi d'ordre personnel, avec des échecs que nous avons peut-être connus, le chômage, la pauvreté, la maladie, mais parfois la perte d'un être qui nous est cher. Donc, on voit que tout est réuni aujourd'hui pour qu'on soit d'une certaine manière désespéré, particulièrement dans ce monde. Et les jeunes, particulièrement, ne sont pas en marge de toutes ces difficultés que traverse le monde aujourd'hui. La preuve en est que on note un taux de suicide très élevé au niveau des jeunes, ce qui est tout à fait dommage parce qu'ils sont l'avenir de la société, l'avenir du monde. Pourtant, c'est au milieu de ce monde profondément fracturé, profondément blessé, que nous, catholiques, particulièrement les jeunes, et j'insiste là-dessus parce qu'ils sont l'avenir de l'Église, nous sommes appelés à vivre notre espérance, pleinement notre espérance en tant que catholique, mais aussi être témoin de cette espérance au milieu de ce monde profondément blessé et fracturé. Mais avant de pouvoir être témoin de quoi que ce soit, il faut d'abord avoir une certaine connaissance ou bien vivre pleinement de ce dont nous voulons témoigner. On ne peut pas être témoin d'une espérance qu'on n'a pas, d'une espérance qu'on ne vit pas. On serait très mal placé pour être des témoins d'espérance si en nous-mêmes, il n'y a pas cette espérance. Et pour pouvoir en parler, il me semble important qu'on puisse essayer de voir ensemble qu'est-ce que l'espérance dont nous entendons assez souvent et particulièrement cette année, puisque le thème du jubilé nous y oblige d'une certaine manière ou nous y encourage. Dans le dictionnaire classique, étymologiquement, le mot espérance vient du mot latin spes, qui veut dire espoir, et renvoie à un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Donc, si on prend L'espérance au niveau humain, il y a des points communs avec l'espérance au niveau chrétien, mais il y a une différence entre les deux. C'est la différence que nous allons voir. Qu'est-ce qui fait la différence entre espoir et espérance, même s'ils ont des points en commun? L'espérance humaine, qui est plutôt humaine, l'espérance humaine qui est d'une certaine manière l'espoir, elle porte sur des biens de ce monde. Par exemple, un paysan, chaque année, il travaille dur et il espère que à la fin de la saison, les récoltes seront bonnes. Un étudiant, quelles que soient ses études, il se donne à fond et espère qu'à la fin de l'année ou bien à la fin de ses études, il pourra avoir un diplôme qui lui convient pour entrer dans le monde professionnel. Quelqu'un qui est malade, il se donne à fond dans son traitement et espère que, il va guérir. Et ça, c'est tout à fait humain. Ça reste au niveau humain. Contrairement à l'espérance chrétienne, elle a une dimension spirituelle. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit à ce propos que l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, pas sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc notre espérance en tant que catholique, c'est le salut promis par Jésus et le salut qu'il nous a obtenu par sa mort et sa résurrection. Il nous l'a promis et nous savons qu'il est fidèle à ses promesses. Non seulement il nous l'a promis, mais il nous l'a obtenu également par sa passion et sa résurrection. Donc, le fondement de notre espérance, c'est le Christ lui-même. Notre espérance, c'est le Christ lui-même qui est notre espérance, parce que c'est lui, notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous appartient maintenant, certes, par sa passion, il nous a obtenu cette espérance, mais c'est à nous maintenant de nous ouvrir à cette espérance. C'est nous maintenant de nous disposer à accueillir cette espérance. Parce qu'une main qui donne a forcément besoin d'une main qui s'ouvre pour accueillir ce qui est donné. Mais si notre main, si notre cœur est fermé, jamais nous ne pourrons accueillir ce que le Christ nous a déjà obtenu. Sur le chemin du salut, dans lequel nous nous sommes engagés à la suite du Christ, parce que être dans l'espérance, c'est s'engager de marcher à la suite de Jésus. Mais marcher à la suite de Jésus n'est pas toujours simple, n'est pas toujours facile. Et sur ce chemin de marche à la suite du Christ, nous pouvons noter différentes catégories. Il y a notamment ceux qui ne se sont pas engagés, qui n'ont pas pu s'engager parce qu'ils n'ont pas connaissance de Jésus, de ce qu'il nous a apporté, du salut qu'il est venu nous apporter. Ils ne sont pas conscients de sa mort et sa résurrection par laquelle il nous a sauvés. Donc ces personnes-là ne sont jamais engagées. Ensuite, il y en a qui se sont engagés à la suite du Christ, mais avec les difficultés de la vie, à un moment, ils se sont détournés du chemin ou bien ils sont restés sur le chemin. N'ont pas pu aller plus loin parce que c'était trop lourd pour eux. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui se sont engagées, mais elles se sentent incapables de poursuivre ce chemin en raison du poids de leur péché. Ils se sentent indignes de continuer à marcher à la suite du Christ parce qu'ils se trouvent un peu trop pécheurs. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui, et malgré le poids des difficultés de la vie, le poids de leurs péchés, le poids également de leur faiblesse, continuent sur ce chemin en s'appuyant, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, pas sur leur propre force, mais sur la force qu'ils tirent du Seigneur pour avancer. Et cette catégorie de personnes, ça doit être normalement nous, dans la mesure où le Seigneur n'a pas attendu qu'on soit parfait pour nous appeler à sa suite. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, mais c'est en connaissance de cause qu'il nous a appelés à marcher à sa suite, malgré les énormes péchés que nous avons, malgré également nos limites, nos faiblesses, les difficultés de la vie que nous pouvons rencontrer. Mais ces difficultés de la vie font partie également de nous, font partie également de l'espérance chrétienne, dans la mesure où le Christ lui-même, il a fait savoir à ses apôtres que celui qui veut marcher à ma suite, pas seulement à ses apôtres, mais aussi à ses disciples, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et à partir de ce moment, il nous fait carrément comprendre que ça ne sera pas facile de marcher à ma suite, mais je serai là. Je serai là avec vous, je vous donnerai la force nécessaire pour continuer à marcher à ma suite. Donc la présence du Christ dans nos vies, dans la marche à sa suite, on n'est pas seul sur ce chemin, ça nous devons en être certains. Le Christ est toujours avec nous et si on est attentif, parfois nous pouvons noter dans des circonstances de nos vies, même dans des moments difficiles, la présence de Jésus qui est là à nos côtés. Ces personnes-là dont je viens de noter, c'est des personnes qui s'appuient sur le Seigneur et demeurent dans l'espérance. Demeurer dans l'espérance, c'est demeurer dans le Christ, car il est notre salut. Et en tant que catholique, c'est ça notre vocation, demeurer dans le Christ. Et en demeurant dans le Christ, nous demeurons également dans l'espérance, parce que c'est lui notre espérance. En demeurant dans le Christ, nous sommes unis à lui, une unité dans laquelle la prière, la parole de Dieu et les sacrements occupent une place très importante. Nous ne pouvons pas être catholiques sans avoir une vie de prière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un ami et ne pas communiquer avec cet ami. C'est dans la communication que notre amitié va se consolider, va être plus solide. C'est dans la communication que nous allons être beaucoup plus proches. Et c'est dans la communication également qu'on pourra former ensemble une belle amitié solide, juste et sincère. Ça, c'est au niveau humain. Mais c'est pareil avec notre Seigneur. On ne peut pas être catholique sans avoir une vie de prière. Il ne s'agit pas de se lever à 4h du matin, à 5h du matin et de prier comme nous. Nous, c'est notre vie. Nous nous sommes consacrés pour cela. Mais avoir au moins, chacun dans son état de vie, chacun également, parce qu'on avance, on avance ensemble, mais pas de la même manière, ni au même rythme. Il y en a qui sont ceinture noire, 5e dan, 8e dan, il y en a qui sont 4e dan, il y en a qui sont 3e dan, d'autres sont à leur premier niveau. Mais chacun a son niveau, et avec le temps, on parvient à construire une relation solide de confiance, d'espérance, et être unis à Jésus. Nous ne pouvons pas être catholiques également sans avoir un contact avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est là où se trouve essentiellement le message du Seigneur. Si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut connaître Jésus? Nous aurons du mal à le connaître parce qu'il se manifeste de plusieurs manières, certes, mais aussi dans la parole de Dieu. Parce que c'est là que son message général a été délivré. Il faut que j'aille un peu vite. Ensuite, nous ne pouvons pas non plus être catholiques sans être en contact avec les sacrements. Les sacrements sont des signes par lesquels le Seigneur vient à nous. Il vient à notre secours, vient nous aider, vient nous communiquer sa grâce et sa vie divine, notamment pour les sacrements les plus fréquentés, le sacrement de confession, le sacrement de l'Eucharistie. Ces deux choses que le Christ nous donne pour être intimement unis à lui, pour nous répandre sa grâce et sa miséricorde. Donc, je nous invite, moi y compris, qu'on fasse plus attention à ces sacrements qui nous aident dans nos cheminements avec le Christ, qui sont même essentiels. Ça, ce sont des choses qui non seulement nous unissent davantage au Christ, mais qui nous évitent également de tomber dans certains péchés, de nous éloigner du Seigneur. C'est ces trois choses importantes et capitales qui nourrissent notre espérance. La prière, la parole de Dieu, mais aussi les sacrements. Ceci nous évite également de tomber dans une erreur qu'on peut souvent faire, notamment une erreur que les disciples d'Emmaüs ont fait également. Parfois, nous sommes tentés, comme les disciples d'Emmaüs, de tomber dans une erreur qui consiste à avoir une espérance qui n'est pas en adéquation avec l'espérance vraie et véritable. L'erreur que les disciples d'Emmaüs ont fait, c'était qu'ils ont cru que le Christ venait délivrer Israël comme un guerrier qui venait avec toute la force de l'armée pour délivrer Israël. Alors que le Christ a certes délivré Israël, mais il ne s'est pas limité à délivrer Israël. Il a délivré toute l'humanité entière. Et les disciples d'Emmaüs, ils le disent sur le chemin de Emmaüs, quand le Christ est mort, puis quand ils étaient en train de repartir, parce que pour eux, c'était fini, il n'y avait plus d'espérance. Celui en qui ils espéraient, il est mort, c'est fini, ils repartent voir ailleurs. Ils disent ceci, nous espérions, nous, que c'est lui qui allait délivrer Israël, ce qui a été fait, mais pas de la manière dont eux, ils espéraient. Ils espéraient voir un guerrier qui viendrait combattre, délivrer Israël. Mais le Christ a combattu à sa manière, de manière pacifique, en versant son sang pour que Israël soit délivré, pour que aussi toute l'humanité soit délivrée. Et cela, ils se sont complètement trompés. Et nous également, parfois, nous sommes un peu comme les disciples d'Emmaüs. Nous avons une espérance qui n'est pas purifiée, qui n'est pas en adéquation avec ce que le Christ est vraiment venu nous offrir. Et dans ce cas, il est bien également de faire confiance au Christ, de se laisser éduquer, de se laisser instruire par le Christ, ce que les disciples d'Emmaüs ont bien su faire. Quand le Christ les a approchés pour leur faire savoir que non, ils sont ils sont vraiment tombés dans l'erreur, c'est pas comme ça que le Christ est venu délivrer, que le Messie est venu délivrer Israël, mais plutôt en se donnant lui-même en sacrifice ultime pour que non seulement Israël, mais tout le peuple soit sauvé également. C'est comme ça que, dans la discussion, qu'ils ont réussi par comprendre que ils faisaient fausse route. Le Christ également s'approche de nous parfois quand nous avons une espérance qui n'est pas purifiée pour nous remettre au centre de la véritable espérance pour laquelle il s'est livré pour nous. Et sur notre chemin d'espérance, nous faisons souvent face à des difficultés, à des tribulations qui font parfois que on a tendance, quand c'est chaud, quand c'est compliqué, à quitter la barque de Pierre pour dire que je me suis trompé. Mais comme chrétien, notre marche à la suite du Christ est souvent marquée par des tribulations et des épreuves, soit de manière communautaire ou personnelle. Au niveau communautaire, nous avons par exemple la crise des abus qui a secoué l'Église durant plusieurs années. Ceci a eu pour conséquence le rejet de la foi catholique pour certains et l'abandon de la pratique chez d'autres. Nous pouvons également noter les actes anti-chrétiens qui se multiplient de plus en plus. Mais devant cette situation difficile, compliquée, beaucoup sont restés simplement. Moi, je suis resté, je ne suis pas parti, simplement parce que ce n'est pas à un homme que j'ai confié ma vie. C'est au Christ lui-même qui s'est livré pour moi, pour me sauver. C'est à lui que j'ai donné ma vie. Ce n'est pas au prêtre que moi j'ai donné ma vie. Quand j'ai promis pauvreté, chasteté, obéissance, quand j'ai fait ma confirmation, ce n'est pas à l'évêque que j'ai promis. C'est moi-même mon engagement. Sachant que mon expérience avec le Christ m'a amené à donner ma vie ainsi, à marcher à sa suite. Donc, les imperfections des uns et des autres ne doivent pas m'amener personnellement à quitter la barque. Parce que la barque, ce n'est pas la barque du frère Benoît Kizito, du frère François qui va nous rejoindre, ni de l'évêque de mon diocèse. C'est mon engagement personnel avec le Christ. Parce que si on se limite au niveau des erreurs des uns et des autres, on se détourne carrément du sens profond de notre vocation en tant que catholique. Nous pouvons déplorer certaines choses et continuer à nous battre pour que la vérité de l'Évangile soit annoncée de la manière la plus authentique. Mais nous devons mettre au centre de notre vie chrétienne celui qui s'est livré pour nous, celui pour qui nous sommes chrétiens. Et ça se voit aussi au niveau des paroisses, au niveau des autres lieux où nous sommes engagés. Quand ça ne va pas, le curé, j'aime pas sa tête, j'aime pas trop la manière dont il fait ses homélies. Je pars, je vais voir ailleurs. Mais on n'est pas là pour le curé. Moi, il y a des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord pour telle chose, mais je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour le Seigneur et je fais ce que j'ai à faire, pas parce que, pas pour le bon plaisir de cette personne, mais dans ma relation avec le Seigneur. Parce qu'il s'est livré pour moi, il a été fidèle et moi, je dois accueillir cette fidélité en étant d'une certaine manière fidèle également à lui. Parce que c'est au Christ que j'ai donné, en qui j'ai mis mon espérance, et il est digne de confiance et d'espérance, pas pour autre chose. Mais aussi, les difficultés peuvent être d'ordre personnel. J'ai parlé tantôt des difficultés, notamment le chômage, la pauvreté, échec scolaire ou bien professionnel, ou bien la maladie, la perte d'un être cher. C'est des choses dont peut-être certains d'entre nous ont fait l'expérience et qui peuvent nous abattre au point de nous dire pourquoi j'essaie d'être fidèle au Seigneur, de marcher à sa suite, et en cela, il ne m'aide pas du tout, alors que j'essaie d'être fidèle autant que possible. Mais sauf que notre condition humaine va également avec des difficultés. Et la vie chrétienne également va avec des difficultés. Le Christ nous a promis le salut et il tient à sa promesse. Mais cela ne nous enlève pas du tout les difficultés de la vie. Parce que les difficultés de la vie, d'une certaine manière, ça nous conforte d'une certaine manière dans notre foi. Ça nous construit également humainement et spirituellement. Parce qu'un enfant à qui ça a toujours été facile d'obtenir tout ce qu'il voulait dans sa vie, les parents donnent tout. Il y a pas du tout de difficulté dans sa vie parce que tout le temps, les parents étaient là pour enlever tout ce qui peut être difficulté. Le jour où il est tout seul, devant des difficultés, il ne pourra pas s'en sortir. Les parents l'ont beaucoup aimé, mais ils ne l'ont pas aidé à ce niveau. Et le Christ veut nous aider à nous construire humainement et spirituellement. C'est pourquoi, dans certains cas, il permet certaines difficultés pour nous éprouver également parce que Parfois, quand c'est bien, c'est beau, tout va bien, je loue le Seigneur, je chante, je l'adore, mais quand ça va mal, je pars. Ça, c'est pas du tout de la fidélité. Et pourtant, lui, il a été fidèle jusqu'au bout en donnant sa vie. Et c'est quelque part également, il attend une certaine fidélité de nous. C'est pourquoi parfois il permet, même si ce n'est parfois pas sa volonté, il permet que ça soit, que nous faisons face à certaines difficultés pour nous éprouver, mais aussi pour nous construire, nous aider à nous construire humainement et spirituellement, pour que nous ayons une vie humaine et une vie spirituelle assez solide pour pouvoir avancer. Parce que sur le chemin, le démon, il est là. Si on n'est pas suffisamment entraîné pour faire face, dès qu'il est là, qu'il nous tend un piège, nous allons tomber dedans. Mais si on est bien formé, humainement et spirituellement, on a tout ce qu'il faut pour le combattre, pour aller de l'avant. Donc, quand on est dans les difficultés, sachons que c'est dur, c'est compliqué, mais le Seigneur est là. Il nous aide et il porte nos difficultés avec nous. Simplement, parfois, nous ne sommes pas attentifs à sa présence dans les moments difficiles. Et pourtant, quand on fait attention, quand on fait attention, quand on regarde notre cheminement, on peut voir que là, il a été présent, je n'ai pas été attentif. Là aussi, il a été présent, je n'ai pas été attentif. Et il nous accompagne. Soyons juste attentifs au passage du Seigneur dans nos vies et nous saurons qu'il est fidèle, même si nous, on est parfois infidèles. Je finis par là. Je pense que j'ai dépassé un peu le temps, mais bon, qu'il me fera un peu miséricorde. Cette espérance que nous avons, nous devons normalement en vivre pleinement. Ça fait partie de notre condition chrétienne, de notre condition d'enfant de Dieu. Mais il ne s'agit pas simplement de garder cette espérance pour nous. Nous avons la mission, en tant que catholique, en tant que jeune chrétien, de témoigner de cette espérance aux personnes qui n'ont pas connu le Christ, aux personnes que j'ai citées plus haut, qui se sont engagées sur le chemin, mais en raison des difficultés de la vie, qui ont abandonné parce que c'est trop lourd, aux personnes qui, en raison du poids de leur péché, se sentent faibles, incapables, et qui ont abandonné, qui sont allées voir ailleurs. Et nous devons être des témoins d'espérance. Et la meilleure manière de témoigner de quoi que ce soit, c'est d'abord notre témoignage de vie. Moi, je viens d'un pays majoritairement 95% de musulmans, mais j'estime bien les chrétiens qui sont dedans parce que la petite minorité qu'ils constituent a un témoignage de vie qui fait qu'ils sont admirés, pas simplement pour être admirés, mais ils incarnent le respect, la bienveillance, à la limite même. Il y a des personnes qui sont en admiration devant les catholiques, au point où ils se disent il y a des musulmans qui veulent épouser des catholiques parce qu'ils ont quelque chose en eux qui dépasse l'entendement humain. Donc, le monde souffre d'une certaine manière, au point où beaucoup sont en perte d'espérance, ils n'ont plus perdu goût à la vie. Et c'est à nous de garder notre lumière d'espérance toujours allumée, intensifier cette lumière et l'apporter aux gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas connu le Christ, qui ont abandonné le chemin, mais ou bien qui simplement ne veulent plus avancer parce que c'est compliqué. Et ceci, c'est avant tout par notre témoignage de vie. On peut annoncer le Christ, ça c'est bien, mais aussi si on annonce le Christ, et que ce qu'on annonce n'est pas en adéquation avec ce que nous on vit, on fait fausse route. Il faut annoncer, mais il faut aussi vivre cela, et ceci porte un témoignage, et cela porte du fruit, du bon fruit, et du fruit qui demeure. L'espérance que nous avons est un trésor que nous devons tous garder jalousement, parce qu'il est précieux. Nous n'avons pas le droit de faiblir, ou de laisser quelqu'un nous arracher cette espérance qui est précieuse. Nous avons le droit également, le devoir également, non seulement de le garder, mais aussi de le propager, pour que l'amour de Dieu aille rejoindre chacun là où il est. Et ceci, c'est notre mission à tous, dans notre lieu de travail, à la maison, partout où on est, on doit être témoin de cette espérance, de l'amour de Dieu qui nous est donné. Que le Seigneur nous aide à cela et que la Vierge Marie nous accompagne sur notre chemin, elle qui a su dire oui jusqu'à la fin, elle qui est la référence de l'espérance par excellence. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et à jamais pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.
Merci, Frère Sylvain Mabouko, pour ce topo. Nous nous souvenons des trois questions qu'il a posées au début. Qu'est-ce que nous espérons? En qui espérons-nous? Et pourquoi nous espérons? Je pense qu'il nous a vraiment aidé à entrer dans cela. Je pense que nous pouvons retenir vraiment que ce que nous espérons ne sont pas juste les biens matériels de ce monde, mais nous espérons les biens éternels, surtout la vie éternelle. Et la personne en qui nous espérons, c'est le Christ, parce que puis il s'est livré pour nous, il nous a sauvés. Mais pourquoi nous espérons ça? C'est souvent la grande question. En fait, nous espérons parce que le Christ est fidèle. Nous espérons parce que nous sommes des disciples du Seigneur et nous voulons manifester cette fidélité à sa suite. Donc voilà ce que nous pouvons vraiment garder de façon synthétique de ce propos. Ensuite, je suppose que vous avez gardé pas mal d'autres choses. Si vous avez des questions, on va se donner 5 minutes de questions et ensuite on fera une petite pause à l'extérieur.
Est-ce que vous pensez que les chrétiens sont la seule source d'espérance dans le monde ou pas?
Est-ce que les chrétiens sont la seule source d'espérance dans le monde? Les chrétiens, je dirais qu'ils ne sont pas la source d'espérance. La source d'espérance, c'est le Christ lui-même qui est la source d'espérance. Les chrétiens sont invités, doivent même entrer dans cette espérance qu'ils ont reçue de ce Seigneur. Mais ils ont une espérance différente. Parce que quand on va voir les musulmans, ils espèrent en Dieu, mais pas de la même manière que nous. Il n'y a pas le Christ, certes, il est mort, il est ressuscité pour l'humanité entière. Mais c'est nous qui le reconnaissons comme notre Dieu et notre Sauveur. C'est en lui que nous avons mis notre espérance. Les musulmans, ils reconnaissent Jésus comme Messie, mais pas comme Dieu, ni fi pas comme Dieu, pas comme Fils de Dieu. Notre espérance est différente parce que nous avons le Christ qui est notre espérance lui-même et qui est la source et la fin de notre espérance. C'est bien? Y a-t-il une autre question?
Alors, c'est une question simple.
Oui.
Comment vous avez vécu tout ça dans votre vie? Par exemple, je ne sais pas moi. Comment vous avez reçu dans votre cœur avec une Christ?
Bon, je vais. Comment j'ai vécu dans mon cœur avec le Christ? Ah, ok. Comment j'ai vécu. Comment j'ai. Je répète la question. Comment j'ai vécu dans mon cœur cette espérance avec le Christ? Je vais essayer de résumer en une minute et demie au max. Parce que moi, j'ai eu cette chance de naître et de grandir dans une famille profondément catholique, vraiment catholique, quoi. Et mes parents se sont. Chez nous, il y avait des choses importantes, trois choses importantes. La formation humaine, la formation intellectuelle, mais aussi le Seigneur au cœur de notre vie. C'est pourquoi le matin, le soir, on priait tout le temps. Ça, j'ai hérité cela de mes parents qui ont transmis et ça me faisait plaisir. Mais à un moment, ce n'était plus les parents. C'est moi-même qui ai décidé de suivre le Seigneur par moi-même, simplement parce que j'ai senti cet amour du Christ et sa présence dans ma vie et j'ai voulu répondre positivement à cet amour. Et quand je suis parti jusqu'à me consacrer à lui, jusqu'à un certain niveau, parce que je me sens comblé d'amour pour le Seigneur, parce que ma vie n'a parfois pas été facile, mais dans toutes les situations difficiles, il a été là. Il a été là, fidèle. C'est pourquoi ce que je dis, c'est quelque part un témoignage. Il a été fidèle des choses sur lesquelles je ne vais pas exposer ici, mais si vous voulez, on peut les partager un peu de manière personnelle. Mais c'est sa fidélité qui a nourri mon espérance jusque-là. Et la connexion avec le Seigneur dans la prière qui a construit d'une certaine manière ma personne et ma personnalité. Mais il a toujours été présent dans ma vie et j'ai vraiment senti sa présence à plusieurs occasions dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux pas faire autrement que de garder cette espérance et grandir, continuer à grandir dans cette espérance. Et inviter aussi certaines personnes à faire cette expérience. Amen.
Génération jubilée.
On finit
toujours par garder une certaine blessure. Et quelquefois, malheureusement, on voudrait pardonner, mais ça reste toujours un petit peu difficile. Et nous avons besoin, dans ce sens-là, du secours de Dieu pour arriver à pardonner. Dans la prière du Notre Père que nous récitons chaque jour à la célébration eucharistique, il est question de pardon, justement. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hier, dans l'Évangile, nous avons entendu cette prière du Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples. Mais voilà, et à l'intérieur de cette prière, Jésus leur dit de dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous fixons un peu la mesure, nous disons à Dieu que de la façon dont nous pardonnons, qu'il nous pardonne également. Ce qui veut dire que nous sommes supposés pardonner. Et ce n'est pas toujours facile. C'est Jésus lui-même qui enseigne cette prière, alors que Philippe lui demande, Seigneur, apprends-nous à prier. Ça veut dire que pour pardonner, justement, il faut prier aussi. Il faut demander à Dieu son secours pour arriver à pardonner. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 18, verset 21, Pierre demande à Jésus, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. À la suite de cette réponse, Jésus donne un enseignement du serviteur impitoyable. Donc Jésus dit une parabole. Pierre, en posant la question jusqu'à 7 fois, il s'imaginait avoir fait beaucoup. Parce que dans la loi ancienne, jusqu'à 5 fois, déjà c'est suffisant. Mais Pierre ajoute, il va jusqu'à 7 fois, donc il a fait plus. Mais Jésus lui dit, jusqu'à 7 fois, ce n'est pas encore ça, il faut aller au-delà. Quand Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable, il conclut en disant, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur impitoyable, il devait une somme au roi et il supplie le roi de prendre patience et qu'il va pardonner. Mais le roi ne fait pas que prendre patience parce que c'est une compassion envers lui, mais le roi lui remet toute la dette. Donc le roi ne dit pas, ok, je te donne une semaine en plus ou 2 semaines et tu rembourseras. Et le roi lui dit, ça va, je te remets toute ta dette. Lui sort de chez le roi et il croise un de ses amis qui lui devait. Lui, il réclame la dette et jusqu'à punir son frère à qui il réclamait cette dette. Les autres le voient, ils sont attristés, ils vont raconter au roi ce qui s'est passé et le roi était furieux. Il dit, je t'ai pardonné, je t'ai remis ta dette, ne devais-tu pas faire autant pour ton frère? Et c'est suite à cette parabole que Jésus raconte cet enseignement en disant, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera parce qu'il a été mis en prison finalement. Pour n'avoir pas avoir refusé de pardonner à son frère. La question c'est, suis-je obligé de pardonner à quelqu'un qui m'a gravement offensé? Si oui, comment je dois m'y prendre? Les offenses, vous savez, il y a des degrés d'offense. Ça dépend. Il y a une différence entre celui qui te fait une blague ou qui te frustre ou tu es un peu fâché et celui, par exemple, qui t'a trahi parce que tu lui as dit des secrets ou des choses très intimes qu'il a révélées ou qui a menti dans ton compte. Ou... Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Et c'est d'autant plus grave quand c'est quelqu'un de très proche, un ami, un parent, qui... Et ça, on le voit aussi dans les psaumes, dans le psaume 54 où le psalmiste écrit « Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer. Si mon rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime. » Ce qui veut dire que la gravité de la faute varie en fonction des circonstances et aussi de la personne qui commet cette faute-là. Pardonner aux autres, pourtant, dans la vie chrétienne, est indispensable pour être soi-même pardonné par Dieu. Le pardon est incontournable dès qu'il s'agit de cheminer dans une relation d'amitié, d'amour fraternel ou conjugal, et même professionnel. Bref, dans toutes sortes de relations, dans l'enseignement de Jésus, celui qui veut être son disciple passera obligatoirement par l'expérience du pardon. Dans cette expérience-là et dans l'enseignement de Jésus, on voit qu'il y a un appel à la sainteté, un appel à la perfection. Parce qu'à la suite, il va dire « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc, il y a une invitation. « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il y a un appel à la réconciliation. Et on verra, il y a une différence entre pardonner et la réconciliation. Jésus, il l'explique également. La réconciliation, c'est toujours dans le sens, dans l'initiative de celui qui a été blessé ou bien de celui qui a blessé. C'est dans les deux sens. Mais pardonner, c'est celui qui a été blessé qui pardonne. L'offenseur, il demande pardon. Alors que pour la réconciliation, l'un ou l'autre peut prendre l'initiative. Celui qui demande pardon veut une réconciliation et celui qui a été offensé en pardonnant veut cette même réconciliation. Mais quelquefois, l'offenseur ne demande pas pardon. Et là, c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, il y a quand même une certaine difficulté et cette expérience au quotidien, on l'a fait et on peut attendre que l'autre demande pardon, qu'il reconnaisse, qu'il revienne. Mais en fait, il ne revient pas. Et il peut s'agir aussi de nous-mêmes, que nous estimons qu'en fait, nous n'avons rien fait de mal, alors que quelqu'un nous reproche quelque chose. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Et Jésus dit, en fait, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Jésus renverse un peu la situation parce qu'il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui a quelque chose contre lui, c'est lui qui a quelque chose contre toi. Jésus dit, à ce moment-là, il y a une initiative de réconciliation à prendre. Le débiteur impitoyable n'a pas été saisi de compassion envers son serviteur alors que son maître était saisi de compassion envers lui. Et le reproche que le maître lui fait, c'est « Ne devais-tu pas avoir, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon ?» Quand nous, à la messe, nous disons « Seigneur, prends pitié » au début, le confiteor, nous disons que le Seigneur ait pitié de nous. Parce que pardonner, c'est aussi avoir pitié de celui qui nous a offensés. C'est lui permettre de revivre à nouveau. Il faut pardonner sans cesse, sans aucune limite, et rétablir immédiatement la relation. Et ça, c'est l'invitation, en fait, à la vie chrétienne, l'invitation à cette perfection de la vie chrétienne. Mais nous faisons l'expérience que ce n'est pas toujours facile. Dans le concret, nous avons toujours un peu de mal, parce que la blessure fait qu'on a du mal à dépasser la situation. Pardonner, c'est remettre la dette. L'annuler, ou d'où l'expression dans le psaume 50, « Efface mon péché ». Donc, on efface l'offense. Et en fait, c'est comme s'il n'y a plus rien qui existe, que l'offense n'a jamais existé. Mais ce n'est pas, dans le concret, c'est quand même compliqué, parce que quand on est blessé, même après la guérison, il y a une cicatrice qui reste. Si on prend le corps physique, on se rend compte, une blessure physique où on a saigné quand elle est profonde, après, même quand elle est guérie, il y a la cicatrice qui va rester. Et on verra que pardonner, en fait, ce n'est pas oublier. On n'oubliera pas l'offense, on n'oubliera pas la situation difficile qu'on a traversée. Mais on va au-delà de la difficulté de l'offense. Pardonner est un acte libre. Personne n'a le droit de mettre la pression à l'autre pour pardonner. Ce serait de l'ordre de la perversion. Je ne peux pas offenser une personne et après lui rappeler à chaque fois « Dieu a dit de pardonner, donc pardonne-moi ». Si je veux demander pardon, je demande simplement pardon sans mettre la personne offensée en difficulté, en lui rappelant les différents versets où la Bible, où le Christ, où Dieu invite à pardonner. C'est une forme de manipulation. Normalement, celui qui a été offensé fait son chemin pour arriver à pardonner. Et donc, on ne peut pas mettre de la pression à quelqu'un, même s'il y a une invitation dans la Bible à pardonner. Et Jésus nous invite tous à pardonner, mais nous n'avons pas le droit de faire pression sur les autres. Le pardon, je disais tantôt, ne signifie pas oublier, ni renoncer à la réparation quand cela est nécessaire et possible. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on renonce à la réparation. S'il y a quelque chose qui a été brisé et qu'on peut réparer, quand c'est possible, il faut le réparer. C'est une question de justice. Et c'est là où on voit que la miséricorde et la justice ne sont pas deux réalités qui s'opposent. La justice n'exclut pas, la miséricorde n'exclut pas la justice. Dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde en avril 2015, le pape François expliquait comment l'exercice de la justice est une miséricorde envers l'opprimé. La justice veut que chacun reçoive ce qui lui est dû. Dans la circulation, quand il y a des quoi, celui qui a commis l'erreur, quand on fait un constat, il doit réparer. C'est pareil dans la vie morale, dans la vie spirituelle, quand on a été offensé ou on a offensé quelqu'un. Si on reconnaît notre tort en demandant pardon, il faut réparer ce qui est encore possible d'être réparé. Quelquefois, quand c'est dans l'ordre moral, c'est beaucoup plus difficile. Finalement, pardonner est un acte créateur. C'est parce qu'on va réparer et donc permettre à l'autre de repartir à zéro. Il s'agit de redonner vie à une relation brisée. Et c'est dans ce sens que le pardon est un signe d'espérance. Parce que en pardonnant, on espère que l'autre ne va pas reprendre, ne va pas recommencer. Mais on espère en même temps qu'il se corrige. On lui donne l'occasion de se racheter, de se corriger, de se repentir. Parce que celui qui pardonne croit au pardon de Dieu pour lui-même. Il devient agent avec Dieu dans un processus de guérison. Dans les évangiles, quand Jésus pardonne, cela s'accompagne de « va et désormais ne pêche plus ». Il y a une invitation à ne pas recommencer. Celui qui pardonne espère que l'autre ne recommencera pas. Il espère aussi que Dieu lui pardonnera ses fautes à lui. Pardonner est un acte de charité et dans ce sens, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Vous savez, il y a les 14 œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde corporelle qui sont 7 et les œuvres de miséricorde spirituelle 7. Et dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il y a le pardon des offenses qui est une œuvre de miséricorde spirituelle en tant qu'un acte de charité. Un signe d'espérance parce que celui qui pardonne espère le salut. Le pardon est un chemin de perfection de la vie chrétienne. Que faire quand il est trop difficile de pardonner? Lorsque l'offenseur n'a pas demandé pardon, ou lorsqu'il s'obstine, il peut être rempli d'orgueil pour reconnaître et haïr sa faute. Parfois, la situation semble beaucoup trop complexe pour parler de pardon. Il faut laisser le temps passer, prier et demander à Dieu son secours. Il s'agit, comme un enfant de Dieu, de prendre sa part de responsabilité de chrétien pour se libérer soi-même, pour répondre à l'invitation de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans l'imitation de la vie du Christ que nous sommes aussi invités à pardonner comme chrétiens. Mais humainement parlant, pardonner libère aussi le cœur de celui qui a été offensé. Parfois, Quand on a soi-même fait l'expérience de demander pardon à autrui, c'est beaucoup plus facile. On a fait l'expérience de sa misère, on a été en situation d'offenseur, on a quand même réussi à demander humblement pardon et on a reçu ce pardon-là. Alors ça nous permet de nous mettre en perspective d'être faibles et pécheurs qui ne se croient pas parfaits. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos péchés, nous avons nos manquements que nous demandons à Dieu de nous pardonner. C'est pourquoi quand c'est trop compliqué, il faut faire mémoire de ses propres fautes envers le prochain et envers Dieu. Il faut se rappeler qu'on est soi-même pécheur. Cela nous évite la rancune qui est un poison pour une vie chrétienne épanouie. Le rancunier souffre beaucoup plus de la rancune que de l'offense. Mais il y a une illusion qu'il faut éviter, c'est de penser que tout redeviendra comme avant. Ça peut redevenir comme avant, mais une relation qui a été profondément brisée par une offense grave, une trahison par exemple, une infidélité dans certains cas, la relation ne sera pas tout à fait pareille, parce que quelque chose a été brisé. Mais elle peut recommencer à nouveau. Une nouvelle relation peut recommencer et un nouveau départ pour un avenir plus radieux. Quand la blessure est très profonde, le pardon ne rétablira pas la relation d'avant, mais une toute nouvelle relation basée sur la confiance. Quand on n'oublie pas l'offense pardonnée, on en garde le souvenir, mais on renonce à la vengeance, on renonce à en tenir compte pour l'avenir. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, Jésus dit, il fait un enseignement en disant à ses disciples, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Pardonner est un appel à la sainteté. Pardonner est un appel à la guérison, à la liberté intérieure. Quand cela devient trop difficile, il faut se rappeler qu'on est soi-même pécheur, mais on a besoin de temps. Quelquefois, il faut se faire accompagner. Il faut avoir un accompagnateur spirituel ou même se faire accompagner au plan psychiatrique ou psychologique, je dirais. Parce qu'il y a ça dépend du type de blessure. Quand on a souffert d'un rejet depuis l'enfance, soit des parents ou des parents qui sont blessés parce que l'enfant ne les écoute pas, parce que c'est trop difficile, parce qu'il fugue tout le temps. Il y a plusieurs situations, plusieurs cas de figure qui font que le pardon devient complexe, mais on compte toujours sur le secours de Dieu, de nos frères, des accompagnateurs, et pour avancer ensemble. Et quand on veut pardonner et qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas se stresser, il faut se dire que ça peut arriver et que c'est sûr que la blessure étant trop profonde, on a besoin d'un peu de temps pour avancer. Je vous remercie de votre attention. On va faire une dizaine pour la dizaine du jour pour confier toutes nos intentions, nos blessures, les offenses que nous portons, ce que nous nous reprochons à nous-mêmes ou que nous reprochons aux autres, de les porter dans la prière, de les confier à Marie pour qu'elle les porte à Jésus, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint qui nous aide à pardonner.